Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de la capitale américaine, lundi 24 juin 2019, Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir, au Burkina Faso, 15 personnes ont été tuées lors de deux attaques dans le nord du pays. Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, proclamé vainqueur de la présidentielle. En Éthiopie, le chef de la sécurité de la région Amara a été tué par balle aujourd'hui. Et puis le président américain Donald Trump a signé aujourd'hui un décret imposant des sanctions supplémentaires contre l'Iran. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Burkina Faso, 15 personnes ont été tuées samedi lors de deux attaques dans le nord du pays. Selon le ministre de la Défense, Chérif Sy, des boutiques ont été détruites. Bagassikoura.
Les villages de Sago et Toegodogo dans la commune de Barsalogo ont été l'objet d'attaques terroristes dans la soirée du samedi 22 juin, perpétrées par des hommes armés non identifiés, a écrit le ministre de la Défense dans un communiqué. Ces attaques ont causé la mort de 15 personnes, dont 13 à Sago et 2 à Toegodogo. Trois boutiques et une dizaine de motocyclettes ont également été incendiées, a précisé le ministre. Dans son communiqué, le ministre souligne la détermination du gouvernement à assurer la sécurité des civils, alors que plus d'un millier de déplacés ont trouvé refuge à Ouagadougou. Barsalogo, où a eu lieu l'attaque, se trouve dans la zone de Yirgu, où des dizaines de Peuls ont été tués le jour de l'an par des Kogolwego, une milice de l'ethnie Mossi en représailles à une attaque terroriste. Plusieurs miliciens Kogolwego ont reconnu les faits devant les caméras. À ce jour, aucun d'entre eux n'a été arrêté.
En Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, ami proche du président sortant, a été proclamé vainqueur de l'élection de samedi. D'après la CENI, il a obtenu plus de 51% des voix. Il est donc élu dès le premier tour. Mais les candidats de l'opposition contestent ces résultats et appellent à manifester jeudi. Sur place, notre correspondant Mohamed Diop.
L'opposition manifeste pour protester contre les résultats proclamés par la CENI. Elle demande la publication des résultats par bureau de vote pour pouvoir les comparer avec ses procès-verbaux. Elle réclame aussi le recomptage des voix dans certains bureaux de vote où elle estime avoir constaté des cas de fraude. Pendant ce temps, la tension ne baisse pas dans la rue. À Nouakchott, la capitale, on constate un fort déploiement des forces anti-émeutes. C'est le cas également dans certaines villes de l'intérieur. À Rosso, par exemple, une ville frontalière, les grands commerces ont été fermés, ainsi que le marché central de la ville. Et pour calmer les esprits, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambak, appelle les Mauritaniens à laisser le processus électoral jusqu'à son terme et de faire tout recours par voie légale. Mohamed Diop, Nouakchott, VOA Afrique.
Et Niger, le Parlement a adopté aujourd'hui un nouveau code électoral. Le texte a été voté à l'unanimité des 133 députés en l'absence des députés de l'opposition qui ont quitté l'hémicycle avant même les débats. Les élus de l'opposition ont déposé une motion de censure contre le gouvernement. Ils l'accusent de tenter d'imposer un code électoral non consensuel et lui reprochent son incapacité à enrayer la menace terroriste. République démocratique du Congo, l'épiscopat congolais exhorte la majorité parlementaire constituée des partisans de l'ancien président Joseph Kabila de ne pas abuser de sa supériorité numérique et d'éviter de voter des lois taillées sur mesure et peu favorables au progrès de la démocratie. La Cour pénale internationale rendra son jugement sur l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda le 8 juillet. Surnommé Terminator, il est détenu à La Haye depuis 2013 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Bosco Ntaganda est accusé d'avoir recruté des enfants soldats, d'avoir commandité des meurtres, pillages et viols commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Centrafrique, les évêques dénoncent l'hypocrisie des accords de paix signés depuis le début de la crise en 2013, alors que la mise en œuvre de l'accord conclu début février entre le gouvernement et 14 groupes armés reste fragile. Une fois ces accords signés, aussitôt ils sont violés, estiment les évêques. Ils ont notamment condamné les tueries perpétrées en mai par l'un des groupes armés signataires de l'accord de paix et ont entraîné la mort de plus de 50 civils dans l'ouest du pays. Cameroun, 7 militaires soupçonnés d'avoir exécuté sommairement 2 femmes et leurs 2 enfants dans le nord du pays seront jugés devant un tribunal militaire pour assassinat. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense du Cameroun. Et Soudan, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, réclame un accès de ses services dans le pays pour enquêter sur la brutale répression de manifestants par les forces de sécurité. Éthiopie, le chef de la sécurité de la région Amhara a été tué par balle aujourd'hui. Le général Assamineo Tsige est considéré comme le responsable des assassinats samedi du chef d'état-major de l'armée et de hauts responsables de cette région du nord-ouest, Claire Morin-Gibourg.
En fuite depuis le coup d'état manqué de samedi dernier, le général Assamineo Tsige a été tué par balle dans le quartier de Zenzelma de Bahirdar, la capitale régionale. Ce lundi a été décrété une journée de deuil national. Les autorités considèrent ces attaques comme une tentative de renverser le gouvernement de la région Amhara. Samedi après-midi, le président de cette région, Ambachou Mekonnen, et un de ses conseillers ont été tués par un commando armé. Le procureur général de la région, Migbaru Kebede, également présent à cette réunion, a succombé ce matin à ses blessures. Dans une attaque séparée, mais qui, selon les autorités, semble coordonnée, le chef d'état-major des forces armées, le général Seara Mekonnen, a été tué par son garde du corps à son domicile d'Addis Abeba.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président américain Donald Trump a signé aujourd'hui un décret imposant des sanctions supplémentaires contre l'Iran. Ces sanctions font suite à la destruction d'un drone américain par un missile iranien. Abdourahmane Dia.
Selon le président Trump, ces nouvelles sanctions font suite, je cite, à une série de comportements agressifs de la part du régime iranien au cours des semaines écoulées, dont la destruction d'un drone américain. Nous continuerons à faire monter la pression sur Téhéran, a affirmé Donald Trump depuis le bureau Oval, assurant que les sanctions pourraient rester en place pendant des années. Les sanctions contenues dans ce décret empêcheront le guide suprême, son équipe et d'autres qui lui sont étroitement liés d'avoir accès à des ressources financières essentielles, a précisé M. Trump. Les actifs de l'ayatollah Khamenei et de son équipe ne seront pas épargnés par les sanctions, a-t-il indiqué. Peu après, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a annoncé que Washington va geler des milliards de dollars d'actifs iraniens supplémentaires. Téhéran, qui subit déjà des sanctions américaines, a déclaré que ces nouvelles mesures n'auront aucun résultat.
Syrie, des oléoducs sous-marins reliés à une raffinerie dans la ville de Banya, dans l'ouest du pays, ont subi des actes de sabotage commis avec l'aide de pays étrangers. Et c'est ce que rapporte le chef adjoint de la société syrienne pour le transport du pétrole, sans nommer les auteurs présumés de ces actes ou les pays qui seraient impliqués. Des délégations financières internationales sont attendues à Bahreïn à la veille d'une conférence économique co-organisée par les États-Unis pour mobiliser des milliards de dollars en faveur des Palestiniens qui n'en veulent pas en l'absence d'un règlement politique du conflit avec Israël. Dirigée par le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, Jared Kushner, cette rencontre intitulée « De la paix à la prospérité » est le volet économique d'un plan de résolution du conflit israélo-palestinien dont la présentation a été retardée plusieurs fois. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le journal de la CAN. Nous sommes au quatrième jour de cette compétition Égypte 2019 qui a commencé depuis vendredi. 3 matchs au programme ce soir. Dans le premier qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Sud, les éléphants l'ont emporté 1-0 devant les Bafana Bafana sous 35 degrés et dans un stade vide. Les Ivoiriens nouvelle génération qui n'ont pas montré grand-chose ont été sortis de leur torpeur par un but de Jonathan Kodja à la 64e. Toujours ce soir, l'un des pays novices de la compétition, la Mauritanie, fera son baptême de feu dans une Coupe d'Afrique des Nations à 20h temps universel dans le groupe E. Les Mourabitoun affrontent les Aigles du Mali. Parlons à présent des matchs d'hier. Dans le groupe D, les Marocains ont pris le dessus sur la Namibie dans la douleur 1-0. Il a fallu attendre la 89e minute de jeu et un but contre son camp du Namibien Itamounou Akemouiné pour voir les Lions de l'Atlas sourire enfin. Les Marocains ont dû faire preuve de patience selon leur coach Hervé Runa.
Je suis satisfait de la victoire. Il y a toujours des choses à dire, à redire, à améliorer. On va dire, heureusement, parfois il y a des équipes qui démarrent très vite et qui vont pas très loin. Donc, à part en 2012, j'ai jamais été très bon pour démarrer les Coupes d'Afrique. Donc, on espère, Inch'Allah, que c'est de bon augure.
Hervé Runa, coach du Maroc. Entrée parfaite aussi pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga, sans Sadio Mané suspendu, ont logiquement remporté leur premier match contre la Tanzanie 2-0. Keïta Baldé a concrétisé la mainmise de son équipe d'un but qui doit beaucoup à la passe décisive d'Idrissa Ganagé. Puis Crépin Diatta, plus tard élu homme du match, a corsé l'addition d'une frappe sèche à la 64e. Belle entame de compétition pour le Sénégal selon son coach Aliou Cissé.
Nous avons pu avoir une belle entame aujourd'hui en rentrant très bien dans cette compétition. Vous savez, dans une compétition telle que la CAN, la Coupe du Monde, il est important ce premier match-là. J'ai envie de dire que c'est ce qui motive en réalité le reste de la compétition. Et l'avoir gagné aujourd'hui contre la Tanzanie, c'est très bien. Mais comme je dis, les garçons, il faut les féliciter. Ils ont su respecter les stratégies, ils ont su respecter la philosophie de jeu qu'on a voulu mettre en place. Et on a pu se créer des opportunités, marquer deux buts. Je crois que c'est très bien pour le moral et c'est très bien pour la suite.
Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, qui devra composer pour la suite sans son défenseur central Salif Sané, victime d'une entorse à la cheville gauche et qui va être indisponible de 10 à 15 jours, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la phase de poule. Le Sénégal affronte l'Algérie jeudi pour le compte de la deuxième journée. Samedi, l'Ouganda a surpris la RDC 2-0 et est en tête du groupe A devant le pays hôte, l'Égypte, qui a souffert face au Zimbabwe pour arracher le 1-0. Dans le groupe B, le Nigeria leader grâce à sa victoire 1-0 face aux novices hirondelles burundaises. Madagascar a créé la surprise en tenant tête à la Guinée 2-2. Nous revenons sur ses prestations à mi-parcours de la première journée dans le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonsoir. La moitié des matchs de la première journée de la CAN confirme la plupart des scénarios prévus. En dehors d'un Sénégal et d'une Algérie supérieure collectivement comme individuellement, à des équipes de Tanzanie et du Kenya évoluant un cran en dessous, les outsiders zimbabwéens, burundais ou namibiens ont tenu la dragée haute à des adversaires annoncés comme favoris, ces derniers ne s'en sortant que sur un coup de sort. Plus encore, des malgaches sans complexe ont contraint la prometteuse formation de Guinée au partage de points, pendant que les craineurs d'Ouganda assommaient à la régulière une équipe des léopards de RDC dépassée dans tous les domaines. Certains perdants accusent la canicule estivale, cette invitée obligatoire dont on ne mesurait pas l'importance. D'autres reviennent sur l'éternelle difficulté qu'ont les grosses équipes à trouver leur marque en début de compétition, là où les plus petits, aux effectifs plus disponibles et plus frais, oppose une plus grande résistance dans les premiers matchs. Tout ceci se tient et confirme aussi le nivellement de valeur qui caractérise le football africain d'aujourd'hui. Avant la fin de la première journée ce mardi, la bonne nouvelle est l'arbitrage jusque-là équitable qui, on l'espère, va continuer à accompagner les rencontres passionnantes de la deuxième journée, bien avant les matchs couperets de la seconde partie de la compétition.
Dans le reste de l'actualité, nous parlons du Mondial féminin France 2019. L'Angleterre, l'une des favorites, s'est qualifiée pour les quarts de finale en écartant le Cameroun 3-0, sanctionné par les interventions de la VAR. Ce fut l'image du match. Les Camerounaises, furieuses des décisions arbitrales, ont même menacé brièvement de ne pas reprendre le match avant de s'y résigner. L'Afrique n'a plus de représentants dans ce mondial féminin puisque le Nigeria a été battu samedi, également 3-0, par l'Allemagne en huitième de finale. Voilà, c'est tout pour le Journal des Sports.
Voilà le Journal des Sports. Merci Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Présidentielle en Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle de samedi. D'après la CENI, il a obtenu plus de 51% des voix. Il est donc élu dès le premier tour. Son portrait avec notre confrère Mohamed Diop au micro d'Idriss Fall.
Mohamed Ould Ghazouani, il était chef d'état-major de l'armée. C'est également un ami de longue date de Mohamed Ould Abdelaziz. Ils ont cheminé pendant 30 ans ensemble. Ils ont participé dans les deux derniers coups d'État qui ont après amené Ould Abdelaziz au pouvoir. Mohamed Ould Abdelaziz ne pouvait pas briguer un troisième mandat. C'est en ce moment-là qu'il est sorti de l'ombre pour être le candidat du pouvoir. Mais sinon, avant, on ne connaissait pas très bien. C'était quelqu'un qui était très calme, qui ne faisait pas beaucoup d'apparitions en public.
Celui qui est arrivé second aussi, Biram Da Abeid, c'est une sorte d'outsider parce qu'il dirigeait le mouvement IRA anti-esclavagiste, même s'il était deuxième aux élections de 2014.
Biram, peut-être, moi je ne dirais pas un outsider parce que Biram a fait un cheminement un petit peu logique, même s'il passe du terrain des droits de l'homme vers le terrain donc politique, mais il faut rappeler que les dernières élections législatives, il a été élu député alors qu'il était en prison. Donc ça renseignait un petit peu sur sa popularité. Les dernières présidentielles, il était arrivé également deuxième. Biram se positionne comme étant le candidat des Mauritaniens défavorisés et on a vu qu'il a pu remporter le vote à Ouagadougou, par exemple, à Ouagadougou, une ville où il y a une forte présence ouvrière, mais également tout le long de la frontière sud, où il y a une forte présence de la communauté négro-africaine.
Qu'en est-il de l'ancien Premier ministre soutenu par le parti islamiste Tawassoul?
Ça, c'est la grande surprise de cette élection parce que tout le monde l'attendait vraiment à la deuxième position. D'ailleurs, certains pensaient même qu'il allait renvoyer le général au deuxième tour. Et ça n'a pas été le cas. Peut-être il a été rattrapé un peu en quelque sorte par son passé parce qu'il fut deux fois premier ministre sous le régime de Moïse Sidiou Ahmed Taïa et sous le régime également de la transition.
Mais les gros perdants, ce sont les partis traditionnels.
Les gros perdants, ce sont les partis traditionnels parce que ceux qui sont arrivés premier, deuxième et troisième, ce sont des candidats indépendants. Si nous prenons l'exemple de Mohamed Ould Ghazouani, même s'il est soutenu par le parti présidentiel UPR, il n'a pas la carte de ce parti, donc il était candidat indépendant. Le deuxième qui est Biram Ould Abeid, c'est clair, c'est un candidat indépendant. Et puis de Mohamed Ould Boubacar, qu'on a cité tout à l'heure, oui, il est soutenu par les islamistes de Tawassoul qui constituent la deuxième force politique du pays. Mais pour autant, c'est un candidat indépendant. Et même le jeune Morsegui qui s'est présenté, lui, il n'a même pas de parti, il est indépendant. Les partis traditionnels ont des difficultés. Récemment, on a vu près de 99 partis politiques qui n'ont pas eu de bons résultats lors des législatives passées, tombés sous le coup de la loi. Aujourd'hui, il en reste une trentaine.
Voilà, c'était Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le nouveau code pénal adopté par l'Assemblée nationale continue de susciter des critiques. Certaines de ses dispositions restreignent, dit-on, les libertés et peuvent condamner jusqu'à 10 ans de prison pour diffusion d'informations sur les opérations militaires. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Cette loi votée vendredi par le Parlement burkinabé porte en elle des éléments attentatoires à la liberté de la presse, juge Guezouma Sanogo, président de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina Faso.
Nous n'avons à aucun moment été associés au processus. Et si vous regardez dans le processus, c'est plus les organisations professionnelles des médias, c'est-à-dire les journalistes qui ont été les plus exclus. Puis vous prenez la loi dans les fonds. Il y a quand même un problème. Quand on dit que c'est un site d'attaque, on ne peut plus faire un direct, c'est quand même nouveau. Et que même si vous avez des images, des interviews pour les diffuser pour une autorisation, et encore qu'on qualifie même la tentative et qu'on la sanctionne, on doit être réaliste et admettre quand même qu'il y a problème avec cette loi.
Au-delà de la sévérité des amendes prévues en ces articles 312 et 316 de l'avis des experts, c'est surtout les durées des peines d'emprisonnement. Toute personne condamnée sous la loi pourra écoper jusqu'à 10 ans de prison, mais bien plus, sous des notions encore vagues et la volonté claire d'interdire et faire punir tout auteur de communication en relation avec l'information sur les actions terroristes. De quoi inquiéter Charles Kenderbeogo, président de l'organisation Reporters du Faso.
C'est vrai que les forces de l'ordre ont des difficultés sur le terrain parce que l'information sans beaucoup de recul, sans beaucoup de recoupement, peut créer des problèmes. C'est pas une mauvaise chose en tant que telle, mais on ne sait pas jusqu'où cette loi sera encadrée. On ne peut pas publier peut-être des images au cours de l'opération, mais à partir de quel moment va-t-on pouvoir le faire? Qui va donner ce quitus-là? Il y a beaucoup de zones d'ombre qu'on ne peut pas saisir. L'inquiétude, surtout, c'est au niveau des réseaux sociaux où il y a beaucoup de dérapages. Je comprends bien que c'est peut-être ce milieu qui est visé, mais il ne faut pas aussi jeter le bébé avec l'eau du bain.
Cette loi n'est pas si liberticide que cela, tempère Maître Apollinaire Kielem, analyste politique et avocat au barreau de Ouagadougou.
Ça, je ne vois pas pourquoi un journaliste va se plaindre. Parce que si tu fais professionnellement ton travail, tu ne vas pas diffuser de fausses informations. Et même si tu le faisais, ce ne serait pas intentionnel. Dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer la loi à toi. Il y a une loi qui est prévue pour ça. Tous ceux qui se lient à la communication, qui propagent des nouvelles, ne sont pas tous des journalistes. Si ces gens-là commettent une infraction, en vertu de quelle loi on va les poursuivre s'il n'y a pas de disposition précise?
Heureusement, des voies de recours existent, comme l'explique l'analyste des politiques publiques pour l'ONG Diakonia, Roger Minungo.
Après l'adoption d'un texte de loi à l'Assemblée nationale, il faut attendre 21 jours pour que la loi entre en vigueur. Cela veut dire que le président du Faso a encore des possibilités de faire relire la loi si effectivement il estime que certaines dispositions ou le contenu de la loi ne satisfait pas aux attentes. L'autre chose, c'est que nous avons le Conseil constitutionnel pour voir les dispositions qui sont prévues dans ce code et, disons, les engagements et les aspects liés aux droits humains.
Avec cette nouvelle loi, le législateur ne fait plus de différence entre le travail des activistes sur les réseaux sociaux et le travail professionnel des formations de journalistes, encore moins l'activité des défenseurs des droits humains. Issa Napo Ouagadougou, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Cap sur la République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Pierre Bemba est de retour à Kinshasa. Acquitté par la Cour pénale internationale après 10 ans de détention, le président du mouvement de libération du Congo est revenu dans son pays en août dernier pour déposer sa candidature à la présidentielle du 30 décembre 2018, avant de regagner Bruxelles, d'où il avait appris l'invalidation par la CENI de sa candidature. Ancien vice-président de la RDC, il a annoncé dans un meeting des manifestations pacifiques contre le régime de Félix Tshisekedi, dont il a critiqué la gestion. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À son arrivée dimanche à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba Gombo a été accueilli au pied de l'avion par quelques cadres de l'AMUKA, notamment Martin Fayulu et Adolphe Muzito, des membres du Présidium, Eve Bazaïba, la secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo, Franck Diongo et Chérubin Okende, des proches de Moïse Katumbi. Ce dernier, récemment nommé porte-parole du coordonnateur de la coalition, a souligné l'unité qui règne au sein de la plateforme malgré des divergences d'approche.
Une occasion de réjouissance, de retrouvailles pour que ensemble nous puissions poursuivre le bonhomme de chemin. C'est des grands leaders. Il peut y avoir des petites divergences d'approche, mais nous finirons toujours par regarder dans la même direction. Et s'il y a des différences d'approche ou de définition de concept, le Présidium va y pourvoir.
Après une procession de près de 4 heures de l'aéroport international de Ndjili à la place Sainte-Thérèse, Jean-Pierre Bemba a tenu son discours devant de nombreux militants de l'opposition. Insécurité, lutte contre la corruption, processus électoral, tous les sujets d'actualité ont été passés au peigne fin par l'ancien vice-président de la République qui a insisté sur l'unité de la Mouka et le caractère pacifique des actions qu'ils vont mener.
Nous devons continuer à défendre par intérêt et la population.
Nous continuerons à défendre les intérêts de la population. Nous sommes tous unis dans la Mouka. Que personne ne vous trompe. Personne dans la Mouka n'est contre les changements au pays. Pour ceux qui sont présents et ceux qui sont absents, je vous assure, nous sommes tous déterminés par des voies démocratiques à défendre les intérêts du peuple. La Mouka vous appartient. Il n'y a pas de changement si le peuple ne manifeste aucun intérêt dans la Mouka.
Le président du MLC a par ailleurs annoncé une série d'actions que l'opposition va mener, à commencer par la marche pacifique du 30 juin courant, pour laquelle il a promis d'apporter avec sa plateforme politique des précisions dans les prochains jours. Message reçu avec enthousiasme par ses sympathisants.
C'est une joie immense pour nous. Ça fait un temps depuis qu'il nous avait quittés. Aujourd'hui, il est encore rentré. Nous sommes dans la joie parce que ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est aberrant, c'est inacceptable. Voilà pourquoi peuple congolais en général et Kinois en particulier, ils ont décidé de venir accueillir les leaders. Nous allons accompagner nos leaders, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Adolphe Moussitou, Freddy Matungulu et Moïse Katumbi, jusqu'à ce que le peuple congolais puisse se retrouver.
En tout cas, j'ai retenu beaucoup de choses. La première des choses, d'abord, du point de vue latent de la Mouka, la Mouka n'est pas morte, la Mouka est encore là. Et la Mouka, ce n'est pas les cinq, c'est la population. Donc la charte de la Mouka a été admise dans tous les cœurs des Congolais.
Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba Gombo, Martin Fayoulou, Adolphe Mozito et Freddy Matungulu doivent se rencontrer prochainement à Kinshasa pour fixer l'opinion sur la position de la coalition Lamouka et les actions qu'elle compte mener. Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le 23 juin consacre la journée internationale des veuves. C'est sur proposition du Gabon que cette journée a été adoptée par l'ONU en 2010. Reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze à Libreville.
8 ans après l'instauration de la journée internationale des veuves, le Gabon peine à devenir un modèle dans la protection des veuves. Simone Messa, vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba.
Le législateur a mis en place l'arsenal juridique pour protéger le conjoint survivant. Mais des pesanteurs sociales, iniques, injustes, persistent. Lorsque les lois ne sont pas méconnues, elles sont tout simplement bafouées. Bien souvent, les personnes spoliées, parce qu'elles sont victimes de sévices, de menaces, de violences physiques ou psychologiques, préfèrent se taire.
Conséquence, la spoliation des veuves persiste et rien ne semble en mesure d'éradiquer ce phénomène. Le témoignage de Félane, épouse Mawamba, veuve depuis 2016.
Pour nous les étrangères, quand le mari décide, donc ça devient autre chose. Quand mon mari a décédé, la belle famille, ils ont refusé de faire le conseil de famille. Mais grâce aux nouvelles lois qui sont sorties, donc comme il n'y a plus le conseil de famille, mon dossier est passé au tribunal et j'ai eu mes droits. Je suis passée par le tribunal, j'ai eu le procès verbal, j'ai eu tout mes papiers. Mais lorsque j'ai déposé mon dossier, arrivé jusqu'à la solde, il n'y a rien jusqu'à présent. Et pourtant, mon mari était un fonctionnaire, il était militaire. Donc là, je ne comprends pas pourquoi.
C'est une situation parmi tant d'autres qui place les tribunaux devant des difficiles arbitrages. Honorine Zébitégué, magistrate.
Les veuves qui abandonnent les maris, les veuves qui abandonnent la femme, etc. Dès que la femme tombe malade, on la prend, va la jeter chez ses parents et vice-versa. Là, nous sommes dans l'indignité successorale. Mais le tribunal n'est pas au quartier. Les associations, il faut qu'on nous saisisse pour donner des renseignements. Si maintenant l'affaire au tribunal et si les juges n'ont pas la preuve de ce que vous dites, que telle femme frappait son mari, telle femme enfermait son mari dans la maison, faisait ceci, cela, qu'est-ce que le tribunal peut faire? On va s'arrêter seulement aux mots.
Selon les services en charge de la prévoyance sociale au Gabon, près de 1000 plaintes pour spoliation ont été enregistrées entre 2015 et 2018. Libreville, Ismaël Obiangze, VO Afrique.
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Joselle Morissin, la présentation Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com. Au revoir.
VOA Afrique.